Depuis 60 ans, une association se bat en France pour venir en aide aux personnes âgées isolées et défavorisées. Cette association, c'est les Petits Frères des Pauvres. Par le biais de visites ou de séjours de vacances, les Petits Frères des Pauvres accompagnent les personnes souffrant d'isolement, de pauvreté matérielle et de précarité multiple. Laure Stéphan s'est intéressée pour nous à l'un des membres de cette association non confessionnelle, Jacky Lemaître, président de la Fraternité des Petits Frères des Pauvres de Nantes, dans l'ouest de la France.
Vox Populi.
En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Par cette phrase, Amadou Ampateba, écrivain malien aujourd'hui décédé, rendait hommage à la richesse de la culture orale africaine. Mais peut-être pourrions-nous ici reprendre ces mots pour ouvrir le livre de vie des personnes âgées. Un livre fait de souvenirs, d'expériences, de récits familiaux ou de pages d'histoire. Une véritable culture orale, en somme. Les personnes âgées sont bien, pourtant, les grands oubliés des sociétés occidentales en panne de fraternité. Manque de temps, de disponibilité, pauvreté du lien familial ou amical, manque d'intérêt aussi. Avec, pour les personnes âgées, un prix à payer, la solitude, l'isolement, voire parfois des petites maltraitances. C'est de cette marginalisation que nous parlons aujourd'hui dans Vox Populi avec Jacky Lemaître, président de la Fraternité des Petits Frères des Pauvres à Nantes et bénévole. Jacky Lemaître revient tout d'abord sur les raisons de son engagement auprès des personnes âgées.
À une certaine époque, quand j'étais plus jeune, j'ai 58 ans aujourd'hui, j'ai été donateur, j'ai reçu un jour un prospectus dans ma boîte à lettres qui m'a interpellé. Parce que le message que diffusait notre fondateur Armand Marquiset était « les fleurs avant le pain ». Et les fleurs avant le pain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'essentiel avant le nécessaire, à savoir reconnaître la personne, la respecter dans sa dignité avant de prendre en compte ses besoins matériels. Et ce message-là, voyez-vous, m'a vraiment touché. Alors j'étais donateur pendant quelques années et puis j'avais d'autres préoccupations à l'époque. Et c'est en simplement 93 que j'ai donné suite à cet engagement. Mais je savais très bien, lorsque j'étais donateur, que je viendrais un jour chez les Petits Frères.
Lorsque vous étiez donateur, avant de rentrer comme acteur dans l'association, est-ce que vous étiez déjà en situation de relation avec des personnes âgées?
Absolument. Quand j'étais enfant, enfin adolescent, j'aimais bien suivre les conversations des personnes âgées. Et ma maman, à l'époque, me disait « Mais va donc jouer avec les enfants de ton âge ». C'était dès l'enfance que ce souci des personnes âgées, de les rencontrer, de les écouter, à l'époque, je les écoutais déjà. Et cette envie, ce lien affectif que j'ai pu tisser au fil du temps avec les personnes âgées ne s'est jamais démenti.
Donc en 93, vous rentrez dans l'association des Petits Frères des Pauvres. Qu'est-ce que vous commencez à mener comme action?
Eh bien, j'ai commencé par une action d'accompagnement, bien sûr, d'un monsieur que j'ai pu accompagner pendant très peu de temps parce qu'il est décédé très rapidement, malheureusement. Il avait un cancer. Et là, j'ai pu mesurer toute la solitude, l'isolement de certaines personnes. Être sur le terrain nous ouvre les yeux et les oreilles à la détresse des personnes que l'on rencontre.
Et aujourd'hui, vos temps d'accompagnement, ça peut être des visites que vous rendez à des personnes dans des maisons de retraite ou bien vous rendez également au domicile?
On va vers les personnes là où elles se trouvent. Moi, en ce moment, si vous voulez, j'ai deux accompagnements de deux dames âgées en maison de retraite. Mais peut-être que dans 6 mois, ça sera ailleurs. Mais pour l'instant, j'ai donc deux accompagnements de maison de retraite, dont une des deux personnes est hémiplégique et ne parle pas. Elle est en position fœtale sur son lit. Donc c'est un accompagnement qui est tout à fait particulier, puisqu'il n'y a pas de communication verbale. C'est simplement par le toucher, par les mimiques, par les gestes que je peux communiquer avec elle. Même si au début ça a été très difficile parce que cette femme refusait l'ensemble des propositions qu'on pouvait lui faire, aussi bien les personnels soignants qu'elle rejetait parce qu'elle refusait sa maladie. Mais maintenant, 18 mois après, j'ai pu constater le chemin parcouru et l'amitié que l'on peut se porter l'un et l'autre.
Comment est-ce que vous diriez que se caractérise le quotidien des personnes âgées? De quoi il est fait?
Ben écoutez, de solitude. C'est vraiment le mot qui me vient spontanément parce que effectivement, ce sont des gens qui sont souvent très désœuvrés, qui ne comptent plus pour personne. Il y a bien sûr dans les institutions, il y a du personnel qui est très dévoué, qui fait ce qu'il peut, mais qui est souvent débordé par le travail et qui n'a pas le temps de s'arrêter auprès des personnes. Et nous, notre travail de bénévole, c'est justement de pouvoir s'arrêter auprès d'elles, de les écouter, de les respecter. Et souvent, moi j'ai accompagné une personne qui est décédée maintenant, qui m'avait dit, lors de ma première visite, « Vous savez, monsieur, ça fait 20 ans que personne ne s'est occupé de moi. Pourquoi vous venez me voir aujourd'hui ?» Lorsque vous recevez cette phrase-là, ça vous touche et ça vous laisse un petit peu sans voix. Et après, avec cette personne, j'ai pu tisser des liens. J'ai expliqué ce que j'étais, ce que je venais faire pour elle, avec elle plus précisément. Et elle s'est ouverte progressivement. Et j'ai vécu 18 mois, vraiment, je peux vous dire, de relations extraordinaires avec cette femme.
Est-ce que vous pouvez également aider les personnes âgées en fait à se remettre en relation avec d'autres personnes ?
Oui, alors moi j'ai vécu quelques expériences très intéressantes et d'autres bénévoles également, à savoir que le fait d'accompagner une personne lorsqu'elle a encore de la famille qui ne vient plus visiter, ça peut remobiliser la famille parce que ça peut les culpabiliser quelque part en se disant voilà des gens qui ne sont pas de la famille, qui viennent visiter ma maman ou mon papa. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là ? Alors, il y a des familles qui prennent conscience de leur rôle et de leur devoir d'accompagner leur propre papa ou leur propre maman. Et ça remobilise certaines familles.
Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, justement, l'isolement et la solitude sont la première forme de maltraitance ?
Oui, j'ai envie de dire, je pense que la solitude et l'isolement pourraient être en partie gommés par la prise de conscience de nos concitoyens de l'importance d'être en relation avec les autres. Aujourd'hui, si vous voulez, la canicule d'ailleurs de l'été 2003 l'a montré, ce n'est pas la chaleur qui a tué, mais c'est l'indifférence. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui étaient sur le même palier mais qui ne se voyaient pas et qui ne se connaissaient pas. Je pense que nos concitoyens aujourd'hui doivent, chacun autour de nous doit prendre conscience du rôle qu'il a à jouer envers nos anciens. Et aujourd'hui, malheureusement, on les met de côté, on les oublie, on les ignore, on leur fait comprendre qu'ils coûtent cher. Et tout ça, si vous voulez, c'est complètement anormal, quoi. C'est pas fraternel de pouvoir réagir de cette manière-là. Donc, c'est vrai que on a tous besoin, les uns et les autres, de prendre conscience de notre responsabilité dans l'isolement et dans la solitude des personnes.
Quel cas de maltraitance physique ou médicale est-ce que vous avez vu au cours de vos actions ?
Alors, moi, je voudrais d'abord, en préambule, par rapport à ça, je voudrais dire tout le bien que je pense du personnel des institutions qui, pour la grande majorité, font un travail remarquable, sont vraiment très dévoués. Mais ils souffrent, j'ai envie de dire, du manque d'effectifs qui fait que, par la pression du travail, eh bien, quelquefois, ils sont maltraitants malgré eux. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vivent mal. Mais moi, j'ai pu voir, évidemment, des cas. Par exemple, moi, je vais vous en citer un que j'ai vécu personnellement, à savoir qu'une personne, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui est hémiplégique, donc qui ne parle pas, qui n'est pas en capacité de demander, eh bien, j'étais arrivé un après-midi, c'était un dimanche, il était 4h moins le quart. Le plateau repas avait été apporté à côté de son lit, la cloche était sur le plat chaud, entre guillemets, et le verre était encore retourné. Cette femme n'avait pas à manger. Il y a des études qui ont démontré qu'une personne hémiplégique ou très handicapée lui faut 3/4 d'heure pour manger. Aujourd'hui, il n'y a pas un directeur d'hôpital qui est capable de pouvoir donner plus de 10 minutes à un soignant pour donner à manger à un résident. Ça veut dire que la personne est mal nourrie et se dénutrit forcément au fil du temps par manque d'aliments, tout simplement. Et ça, c'est pas normal dans notre société aujourd'hui. Ce sont des gens qui ne sont pas en capacité de réclamer. Ce sont des souffrances invisibles.
Témoignage de Jacques Lemaître, président de la Fraternité des Petits Frères des Pauvres de Nantes. Il était interrogé par Laure Stéphane.